Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. C'est dans une villa cachée parmi les buis et les chênes, non loin du hameau des Vals, que Fred nous accueille pour nous faire découvrir un élevage qui se fait de plus en plus rare, la cuniculiculture. Mais faisons d'abord connaissance avec notre hôte.
Donc Frédéric Bernard, j'habite au Vals, commune de Mirou.
Et alors, quelle ferme avez-vous ?
Alors c'est une ferme très atypique puisqu'elle est quasiment hors sol, elle se limite à 2,5 hectares de cosse non labourable, d'où l'élevage de lapin qui est un élevage qui se pratique hors sol.
Le lapin, on ne le lâche pas dans un parc ?
Non, on pourrait, mais à ce moment-là, on ferait plutôt du lapin de garenne qui serait destiné à la chasse ou au repeuplement ou des choses comme ça. Pour la consommation, jusqu'à présent, il y a eu quelques essais, ce n'était pas concluant. Donc, ils ne vont pas dehors, quoi.
Depuis combien de temps
Alors, je me suis installé, j'élève des lapins depuis 40 ans, mais j'en ai fait mon métier en 2018.
Ah oui,
donc c'est récent,
c'est tout récent.
4 ans.
C'est une reconversion professionnelle.
Oui, tout à fait. J'étais technicien agricole, technico-commercial dans le Camarès. Un peu à Saint-Cernin au début de ma carrière, dans le Camarès, puis à la fin de ma carrière sur le Levezou. Mais voilà, c'est une reconversion à la cinquantaine.
Ah ben très bien, mais ça reste toujours dans le domaine agricole.
Voilà, toujours.
Voilà. Et c'est quelque chose qui vous chatouillait depuis longtemps, de prendre une ferme ou
oui.
C'est venu...
Ah. Oui, c'est quelque chose qui me... J'aurais toujours souhaité faire ça. Bon, après, il n'y a pas eu d'opportunité. Moi, je suis petit-fils d'agriculteur, hein, mais mon père avait déjà quitté le milieu. Donc, j'avais des cousins, des oncles qui étaient agriculteurs, mais bon, il n'y avait pas d'opportunité pour travailler avec eux à l'époque. Et après, oui, c'est quelque chose qui me turlupinait. J'ai longtemps pensé pouvoir faire associé de GAEC minoritaire et choses comme ça. Et puis après, c'est un peu ma femme qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu veux t'embêter à aller faire associé minoritaire de GAEC ? T'as une passion et t'as une compétence sur l'élevage de lapin, fais de l'élevage de lapin. » Et bon, voilà, ça a trotté dans ma tête une paire d'années d'études de marché, de rencontres, choses comme ça. Et puis après, bon, j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon employeur. J'avais plus de 50 ans, j'avais droit à 3 ans de chômage. J'en ai gardé un pour monter le dossier. Et les deux autres années ont été transformées en prime en installation, puisque vous ne pouvez pas toucher de DGA à 50 ans. Donc, mes droits à chômage des 2 ans, en gros, on en convertit la moitié en aide à la création d'entreprise. Donc, ça m'a fait quasiment une année de salaire pour démarrer.
Ouais, voilà. Ça permet de démarrer sans trop se mettre dans la difficulté.
Tout à fait, voilà. Et puis faire une transition en douceur avec une année pour... je me suis consacré à temps plein à la création de l'atelier, quoi.
Et alors, pourquoi le lapin ?
Alors pourquoi le lapin ? Mais parce que déjà, donc depuis tout petit, j'en élevais, parce que n'ayant pas de terre, c'était un élevage qui permettait d'élever sans avoir besoin d'avoir de terre. Après, bon, parce que c'est un animal qui m'attire depuis que j'ai 8 ans. Et après, pourquoi le lapin ? Peut-être parce que c'est ce qu'on m'a donné quand j'avais 8 ans. On m'aurait donné des pigeons, peut-être j'aurais élevé des pigeons. Bon, moi, à l'origine, c'était les brebis, mais bon, élever des brebis, moi, j'ai habité à lotissement dans la région de Lille. Pas question de mettre une brebis dans le lotissement. Déjà, les lapins, c'était interdit.
La pauvre brebis.
On avait caché les clapiers avec du bois, pour pas que ça soit, puisque le règlement du lotissement l'interdisait. Mais une brebis, c'était pas possible. Donc, voilà, ça alliait tout.
Et donc, c'est une vieille passion,
Le lapin. J'ai commencé à l'âge de 8 ans, donc j'en ai 56. Ça fait pas loin de 50 ans.
Un sacré vécu sur le lapin.
Voilà.
À peine 4 ans que vous êtes installé.
J'en ai fait mon métier, voilà.
D'accord. Il n'y en a pas beaucoup ici qui font du lapin.
Alors, il y a que des gens qui le font tout en vente directe et que du lapin. J'en connais pas d'autres. Par contre, j'en connais quelques-uns qui font de la vente directe de lapin, mais qui ont d'autres activités à côté. Donc, soit ils font de la volaille, soit ils font, j'en connais la région de Rodez qui fait des brebis, voilà. Mais purement que lapin, à ma connaissance dans le département, il n'y en a pas d'autres en vente directe. Après, il y a des élevages standards, et en Aveyron, il doit en exister encore une petite dizaine, on va dire.
Mais c'est pour la grande distribution.
Voilà, là, ça part en groupement, c'est abattu des abattoirs et c'est vendu après. Voilà, ça rentre dans le circuit de la grande distribution. Comme moi, où il n'y a que du lapin, à ma connaissance, je suis le seul.
Le seul en Aveyron.
Voilà.
Eh bien. À titre professionnel.
À titre professionnel, voilà.
Activité,
non, non, voilà. Et c'est ma seule activité professionnelle, ouais, je n'en ai pas d'autre.
Et alors, comment vous vendez? Parce que vous m'avez dit en vente directe, voilà. Mais à la ferme, dans
alors,
des boutiques.
Je fais la vente directe, ça a commencé il y a 6 mois. Hein. Ouais. Donc pour le moment, je fais que dans des boutiques. Ça permet d'écouler à peu près la moitié de ce qu'il me faudrait, voilà, pour sortir vraiment un revenu décent. Et je fais donc principalement, donc la première, c'est Saint-Afrique. C'est les premiers qui m'ont accepté dans le magasin de producteurs de Saint-Afrique. Après, je suis dans le magasin de producteurs de Gignac. Je suis dans le magasin de Campagnac, et puis le plus important, le marché paysan à Millau et le GIE des fermes des Grands Causses, où on fait le marché à Montpellier le mardi et le samedi. Donc en fait, ça doit faire 6 points de vente. Et après, un petit peu à la maison, mais là, c'est très lourd. C'est des gens qui me connaissent, mais c'est très, très, très marginal. Voilà,
c'est par le bouche à oreille.
Voilà, par le bouche à oreille.
Je n'ai pas. Internet,
si, j'ai un site internet, mais qui n'est pas très actif. S'il est à jour, il a été créé il y a 6 mois, donc il est à jour. Mais il n'est pas très actif. Enfin, je n'ai pas mis en place un système de vente. Puisque, bon, si, après, je suis aussi à Clic à la ferme, qui est. Voilà, à la limite, ça ferait doublon. D'aller faire de la vente à la ferme et plus Clic à la ferme, ça, c'est le même, pour moi c'est le même type de vente. Autant développer l'outil collectif qui a une meilleure communication, enfin, qui sera toujours mieux qu'un site perso. Et puis le collectif, enfin, moi je suis persuadé que le collectif, il y a plus d'idées dans sa tête que dans une. Et un de mes patrons me disait qu'à deux faisait le travail de trois. Donc voilà, mais je crois beaucoup au collectif, donc voilà. Ouais. L'idée, et après je réponds une fois quelques sollicitations, le lycée Foch à Rodez, des choses comme ça, mais c'est ponctuel.
Au coup par coup.
Ouais, au coup par coup.
Et donc pour l'instant, à peine 6 mois d'activité,
voilà.
C'est ça, donc vous ne savez pas encore si vous en tirez un revenu suffisant.
Mais je suis dans les objectifs, en gros je sors un demi-salaire, voilà.
D'accord. Et l'objectif c'est d'arriver à être autonome, enfin pleinement.
Voilà, moi je vais donner un an, quoi, donc j'ai encore 6 mois. Bon, mais il y a d'autres perspectives, hein. Il y a un salon là bientôt sur Millau là, pour rencontrer des restaurateurs, des choses comme ça, puis après on peut agrandir la zone. Bon, c'est vrai que les coûts de livraison, là, fait les coûts de l'énergie font réfléchir, hein. Même Gignac, c'est pareil, hein. Si on n'était pas plusieurs à y aller, descendre Celle-Lapin à Gignac, à mon avis la rentabilité elle y est pas s'il faut payer le gasoil, quoi. Le fait qu'on soit plusieurs, on s'entend, ça passe, mais voilà, donc il faut réfléchir. Si... En plus, le lapin, bon, c'est pas du poulet. Du poulet, facilement, un magasin va te prendre 10 poulets semaine. Bon, un magasin qui te prend 6 lapins, c'est déjà joli. Parce que c'est quand même pas une consommation.
Oui, c'est vrai, ça se vend pas beaucoup, le lapin. Enfin, on n'en trouve pas souvent.
Voilà. Alors, moi, quand j'avais fait l'étude de marché, des gens disaient qu'ils n'en achetaient pas, pas parce qu'ils aimaient pas, c'est parce qu'on leur en proposait pas. Alors, c'était pas mal quand tu fais une étude de marché. Mais, alors, on a la chance, notamment Millau, encore plus que le Saint-Africain, il y a toujours une tradition sur Millau de consommation de viande de lapin. Alors, on discute avec des anciens, même des anciens éleveurs, ils te disent, on ne sait pas pourquoi, Millau a toujours été un endroit où ils se consommaient du lapin. Plus que Saint-Afrique et beaucoup plus qu'au Rodez.
Ah, tiens, donc, c'est vraiment une particularité mise à part.
Alors, ils n'ont pas l'explication, mais tu dis, les bouchers ont toujours présenté beaucoup de lapins. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, le marché paysan, c'est un gros débouché, quoi. Et en plus, il n'y en avait plus de producteurs depuis moins 5-6 ans, et les consommateurs semblent à ce qu'ils me disent, puisque là, c'est nous qu'on tient la boutique, hein, donc on les rencontre directement, ils te disent, ah, mais on est content d'avoir retrouvé du lapin. Voilà. Ma collègue vend 30 poulets, moi je vends 7 lapins. Voilà,
d'accord.
On est l'idée à peu près des proportions. Voilà.
Ouais. Mais c'est pas plus cher que le poulet, le lapin.
Un tout petit peu.
Un tout petit peu.
C'est un peu plus cher que le poulet, c'est moins cher que la viande rouge. On se situe au milieu, à peu près dans la gamme des produits, on se situe à peu près au milieu en prix. Quoi. Bon, ça reste une viande blanche. Bon, après, au niveau diététique, tout ça, ça. Grosse qualité.
Oui, voilà, c'est peu gras.
Voilà, c'est pas gras, très petit taux de cholestérol, beaucoup d'oméga 3. Enfin, ça répond à beaucoup de.
Voilà,
ça.
Manger de la peine.
Voilà, tout à fait. Mais d'ailleurs, le CLIP, qui est l'organisme national de promotion, quand il communique là-dessus. Après, la difficulté, c'est qu'il faut un peu le cuisiner, quoi. Voilà, ça peut se heurter. Au niveau des consommateurs, un poulet, tu le mets dans le four, basta, c'est simple. Le lapin. ça peut être vite sec si tu fais que ça. Ça, ça demande plutôt un peu de cuisine. Ouais. Après, c'est pas une carcasse très jolie non plus sur un étalage. C'est pas un poulet, c'est rond, c'est facile à présenter. La paye sur un étalage, c'est pas. C'est tout en longueur. Alors, il y a la tête. Moi, au début, je l'ai enlevé, mais les consommateurs la veulent. D'autres, ça les choque. Alors, je fais un peu moitié-moitié. Je laisse la tête, d'autres, je l'enlève. Et ça, c'est la pratique qui m'a fait.
C'est pas limpide, ouais.
C'est la pratique qui m'a fait. Au début, je les enlevais systématiquement, les têtes, parce que je trouvais que c'était pas joli. Puis, il y en a qui les ont demandé. voilà. Donc, je fais en gros deux tiers avec tête, un tiers sans tête. Après 6 mois, c'est ce qui remonte du marché, quoi.
Bon, et alors, combien de lapins vous avez à peu près, là ?
Alors, moi, j'ai une trentaine de femelles reproductrices. Et pour le moment, je dois avoir 175 places à l'engraissement. En fait, j'ai 3 parcs, puisque là, j'ai supprimé les cages. Donc, les lapines sont en clapier ciment traditionnel, comme il y a dans toutes les fermes où on élevait des lapins familiales, quoi, on va dire. Et après, j'ai fait des parcs de 6 mètres carrés. Ils sont sur caillebotis, ils ne sont pas sur paille. Au début, j'avais voulu faire sur paille, mais sur le niveau sanitaire, ce n'était pas terrible. D'accord. Donc, ils sont sur caillebotis plastique. Mmh. Et donc, il y a 3 parcs, 75... place. Voilà.
Et vous devez être quelqu'un de chanceux avec toutes les pattes de lapin que vous avez.
Effectivement. Hein. J'y pense quand je les évacue. J'y pense tout le temps qu'il y aurait peut-être un marché là, faire un porte-clé.
C'est ça, vendre des porte-clés en pattes de lapin. Et ce qui est rigolo aussi, c'est le nom de l'élevage de lapin, la cuniculture.
Ouais, cuniculiculture normalement.
Cuniculiculture. Voilà. Wow.
On a concentré souvent, on dit cuniculteur ou cuniculture, mais normalement c'est cuniculiculture. Puisqu'en latin, c'est cuniculus rectolagus, c'est le nom du lapin en latin.
Bon, c'était quand même plus simple de l'appeler ça lapin.
Voilà. Bon. Mais bon, vous savez comment les scientifiques, quand ils ont fait les noms.
Ah ben oui, bon.
Alors c'est une raison sûrement.
Ils nous ont pas demandé.
Oui, oui, mais. Mais sinon, c'est cuniculiculture.
Cuniculiculture. Ouais. Donc, même si ça fait que 4 ans que vous êtes lancé dans la cuniculiculture, mais vous connaissez bien le métier, ça fait longtemps que vous l'avez vu changer. Ouais. Est-ce que c'est un métier que vous conseillerez à quelqu'un, que ce soit paysan en général ou quelqu'un qui veut se lancer dans un élevage de lapins ? Est-ce que vous le conseilleriez et sur quoi vous mettriez en garde ?
Alors, c'est quelqu'un qui veut se lancer, on peut le conseiller parce que c'est simple au niveau des investissements. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin de terre. Moi, j'ai un tracteur qui est plus vieux que moi. Ouais. Donc, j'ai déjà 56 ans, donc vous voyez le tracteur, c'est un D35 pour ceux qui connaissent. C'est juste pour tirer le fumier.
D'accord.
Enfin, en gros, c'est une brouette motorisée. Voilà, pour évacuer le fumier. Donc voilà, ça demande peu d'investissement au départ. Et des clapiers, ça coûte pas très cher. Aujourd'hui, il y en a beaucoup d'occasions. Après, un petit bâtiment pour les abriter. Le bâtiment pour les parcs, c'est pareil, il coûte pas très cher. Voilà, c'est pas besoin d'avoir de terre. Alors, si on peut expliquer, par exemple, pourquoi j'ai pas fait en bio. Je me suis mis quasiment les normes du bio, j'ai pas fait de bio, parce que les règles du bio disent qu'il faut produire sur l'exploitation au moins 50% de leur alimentation. Donc, n'ayant pas de terre labourable, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai renoncé à faire du bio. Pour conseiller à quelqu'un, oui. Après, il faut pas faire ça parce qu'on n'a pas trouvé notre production. Oui, c'est-à-dire que c'est très technique. Voilà, c'est très technique, c'est très pointu. Si on est passionné des déconvenus, on en a. Moi, depuis bientôt 50 ans, j'en ai vu mourir. J'ai eu des épisodes de crise. Il y en a qu'on sait pourquoi, d'autres on ne sait pas pourquoi. Il faut savoir. Alors, une philosophie qu'a mon oncle qui était agriculteur à Vabre, qui vit toujours, qui a 90 ans, il disait en agriculture, il faut prendre ce qu'il y a. Et c'est aujourd'hui la devise que je me donne, c'est de ramasser ce qu'il y a. Et donc voilà, les jours où ça marche, quand ça marche très bien, c'est vrai que ça reproduit très vite, ça fait beaucoup de petits, ça pousse vite, c'est fabuleux, mais il faut savoir qu'à un moment donné, ça peut ne pas marcher, et on aura parfois des raisons, des explications, et des fois on n'en a pas. Ouais. Donc voilà. Si tu le fais par dépit, si t'es pas vraiment passionné, tu vas te dégoûter, rebuter, et c'est pour ça qu'il y a des tas de gens qui se sont rebutés dans l'élevage de lapin, parce qu'ils l'ont fait, parce qu'il fallait trouver un complément, une production qui complétait, et puis si t'es pas passionné de ça, à première déconvenue ou à la seconde, tu craques, quoi. Ouais.
Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris putois. allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit. Ma voisine affolée vint cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié. Mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contraint de coucher dehors quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste. Toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison? Erreur on ne peut plus funeste. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvrer tout son courage, rentra dans ses foyers faire sécher son mari en me donnant rendez-vous les jours d'intempérie. Rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux, j'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nuées, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son bonhomme de mari avait tant fait d'affaires, tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer, qu'il était devenu millionnaire et l'avait emmené vers des cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne pleut, où l'on ne sait rien du tonnerre. Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps auquel on a tenu tête ensemble, lui compter qu'un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble.
Bon, moi je vois l'avenir. Bon, mais dans les élevages rationnels qui ont été inventés par l'INRA dans les années 70, aujourd'hui, si on supprime les cages, comme il semblerait que ça soit le cas dans la loi, alors la profession étudie, hein, chercher ben, des parcs comme moi j'ai fait, ça passera, mais pour le moment on n'a pas trouvé la solution des femelles, des mises bas. Oui. Les clapiers sont considérés comme des cages. Mm. Alors est-ce qu'après, quand ils feront la loi, ils le font partir? Parce que cette loi, à mon avis, elle vise les élevages de poules. Mm. Et c'est vrai qu'une poule n'a rien à faire dans une cage. Ça, je suis bien d'accord. Elle l'a peint, depuis qu'il est domestiqué, il est dans des cages. Après, on peut discuter des dimensions, des tas de choses, mais... Mm. Moi, je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse élever des lapins sans une cage. Alors après, on appelle ça un box, on l'appelle comme on veut, mais après, on peut discuter de la taille, mais... Donc, si on ne résout pas ce problème-là, ça va disparaître. Mm. Mais même à la limite, les élevages fermiers et amateurs, si on interdit les clapiers... Et voilà, bon, à mon avis, ça va évoluer. Surtout qu'à mon avis, la loi, elle ne vise pas spécialement les lapins. Bon, il y a une danse, ça, c'est clair. Hein. L214, ils ne nous aiment pas. Hein. Mais ce n'est pas la première visée, à mon avis, c'est les poules. Donc là, ça va morfler. Les lapins, on va voir. Donc, à mon avis, l'avenir, il n'est sûrement pas là. Après, le type d'élevage que je fais, moi, complètement fermier, 30 lapines, hein. Un élevage professionnel standard, c'est 500 minimum. Aujourd'hui, c'est plutôt 800 000.
Wow. Ah oui.
On dit, mais 30, c'est...
30, oui, ça échelle les mêmes.
Quand tu discutes de ça avec un cuniculteur professionnel, ils sont principalement dans les Pays de Loire. Hein, c'est pas beaucoup de production, c'est la Bretagne. Nous, c'est plutôt Vendée et Maine-et-Loire. Mmh. Un climat très doux et régulier toute l'année. Et les lapins n'aiment pas les écarts. Donc c'est vrai que ça leur convient bien, je sais pas, historiquement, s'ils sont là. Et quand tu discutes avec eux là-bas, 30 lapins, ils te regardent avec des...
Mais comment tu fais
pour même 300 lapines, ils ne comprennent pas. Et en Aveyron, c'était plutôt 300-500, les élevages dont je vous parlais. Là. Eux, là-bas, à moins de 800, ils ne parlent plus. Enfin, alors, bien sûr, c'est à plusieurs, hein, je ne vais pas tout seul, mais, mais voilà. Donc, ça, à mon avis, ça, on va avoir du mal. Dans mon système à moi, oui. Alors, après, il faudra voir la consommation. Aujourd'hui, elle baisse. On est passé à moins d'un kilo par habitant et par an. Tu fais des études de marché national, c'est consommé par des personnes âgées dans l'arc méditerranéen. Donc, ici, on n'est pas trop mal placé. Le problème, c'est que les médicaments, les gens, ils vieillissent, ils en consomment. Des lapins, si tu n'en as pas mangé jeune, je ne suis pas sûr que le jour où tu seras vieux, tu mangeras du lapin. Moi, quand je tiens le marché à Montpellier, je suis étonné, ce n'est pas que des vieux qui m'en achètent.
Donc, la cluniculture, pour toi, elle a encore pas mal d'années à
voilà, il faudra faire une révolution fait à la mer, quasiment, puisque dans les années 50, ils étaient en clapier, les amis, dans des cages. Peut-être on va repartir dans l'autre sens, hein, mais bon, ça, c'est...
Mais c'est vrai que dans toutes les vieilles fermes, on voit des clapiers.
Ou des cabanes en bois, même, des fois. Les clapiers ciment, c'était déjà la révolution des années 60. Ah, mais aussi, quelque chose qu'il faut savoir sur les lapins, c'est... Ce qui est quand même très particulier, c'est que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le lapin était élevé pour la fourrure. La viande était un sous-produit. C'était...
Aujourd'hui, on n'en fait rien de la fourrure.
Aujourd'hui, ça part à l'écarissage. Les fourrures partent à l'écarissage. Moi, je suis un passionné d'élevage de lapins de race. Quand on lit les vieux textes sur les races qui ont été créées en gros fin 19e, début 20e, c'était toujours à viser fourrure. La viande étant un sous-produit. Alors, ça, j'ai déjà vécu une première révolution. Puis après, un autre truc que j'aime bien dire, et ça peut intéresser les autres agriculteurs, c'est combien faut-il de lapines pour produire en un an autant de viande qu'une vache au braque. Alors, on laisse réfléchir, en un an.
Mais je ne sais pas, combien de temps dure la gestation?
Un mois.
Un mois ouais. Oh, ça se trouve une lapine, non,
non j'ai pas tout à fait, mais deux et demi.
Deux et demi.
Avec deux lapines et demi, on produit autant de viande en un an qu'une vache au braque. En gros, 300 kilos. On va considérer qu'une vache fait un veau de 300 kilos. De viande, ben pour produire 300 kg de viande de lapin, il faut deux lapines et demi. Donc, en matière d'efficacité, c'est quand même très efficace. Oui. Parce que ça, deux lapines et demi, ça mange moins qu'une vache. Quoi.
Oui, c'est ça qu'il faut savoir, c'est le nombre de kilos de nourriture qu'il faut
produire. Ben, c'est quand même nettement moins qu'une vache sur son entretien. Quoi, puisqu'une vache, si mes souvenirs sont bons, c'est 5 UF pour vivre, donc en gros 5 kg d'orge. Deux lapines et demi, elle ne mange pas 5 kg d'orge par jour. Loin, ça me faut. Elle en mange 400 grammes. Quoi. Voilà, ça donne une idée de. Si on raisonne qu'en UF, hein, ça ne mange pas que de l'orge, même fait. D'ailleurs, l'Afrique s'y intéresse. Alors, le seul problème, eux, c'est la chaleur. Les lapins ne supportent pas la chaleur et ils ont toujours beaucoup de mal. Mais c'est vrai que moi, j'ai fait le salon de l'agriculture avec les animaux de race. Il y avait beaucoup d'Africains qui venaient parce qu'ils le savent, toutes ces règles-là, que c'est quand même très efficace. Et comme eux, ils sont à la recherche, et puis c'est une viande blanche comme le poulet, tout ça, c'est un truc qu'ils consomment, ça, c'est dans leur culture, quoi. Mais à chaque fois qu'ils ont essayé, il y en a, hein, sans doute, des élevages en Afrique, mais ils se heurtent à la gestion de la chaleur.
Plus que vous avez une grande expérience, enfin, une longue expérience d'agriculture, issue de milieux plus ou moins agricoles, est-ce que vous avez une idée de ce que sera l'agriculture en général dans les années à venir? Ou alors ce qu'elle devrait être. C'est pas la même chose.
Mais à mon avis, il y aura les deux. Il y aura tout ce que j'aime et tout ce que je déteste. Moi, je suis pour une agriculture paysanne à taille humaine, déjà qu'elle soit transmissible. Moi, déjà, c'est. Hormis bon, mon truc, moi, c'est forcément transmissible, mais même. Moi, j'ai trop d'amis et de connaissances qui, aujourd'hui, à 56 ans, ils commencent à se poser la question de transmettre. Même avec des enfants passionnés, mais ça devient impossible. Aujourd'hui, une exploitation de brebis laitières moyenne, on parle d'un million, un million et demi d'euros. Bon, si t'as qu'un gamin, ça va. Mais si t'en as trois, les autres, ils vont peut-être pas s'asseoir sur un tiers d'un million et demi, quoi. Donc, et si lui, il faut qu'il s'endette auprès de ses frères et sœurs, celui qui va rester, il va se dire, c'est bon. Hein.
Est-ce que ça, c'est pas les banques, en fait, qui s'accaparent? L'outil de production agricole, en fait, c'était un pan d'économie qui leur échappait jusqu'à présent. Et avec ces reprises qui coûtent un bras, moi, ce qui là, ça devient leur...
mon idée là-dessus, moi, je pense que c'est la PAC qui a foutu tout à l'air. La PAC, elle a créé un droit d'entrée, un pas de porte, en fait. Tous ces systèmes de primes liés plus à l'activité, mais liés à la terre, on a créé, en fait, des droits à produire, des pas de porte. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est ça que les gens transmettent. Après, je reconnais que celui qui l'a payé, des fois, il veut s'en... C'est comme les plaques de taxi, quoi. T'arrives à un moment donné, il faudra sacrifier une génération, quoi. Ouais. Donc, je dis qu'il faut garder une agriculture paysanne à taille humaine qui soit transmissible. Ça, je pense que dans nos régions, sur des produits de qualité, de label, du circuit court ou pas, hein, moi je suis un fou de circuit court, mais j'ai bien conscience que tous les agriculteurs ne peuvent pas produire en circuit court. Sinon, en Aveyron, à 80, on va nourrir le département. Hein. Et on est 800, je crois encore. Hein, voilà, je crois qu'on est encore 800. Si tout le monde doit faire du circuit court, il y en a, ils ne seront pas courts, hein, parce que les Aveyronnais ne vont pas acheter toute la production de l'Aveyron. Donc, il faut tout. Mais après, moi j'ai peur qu'il y en ait les deux, donc qu'on garde ça, et puis que d'autres structures, eh bien, comme ça sera incessible, eh bien, ça sera des banques ou des fournisseurs d'aliments ou d'énergie, j'en sais rien, qui achèteront le foncier et qui installeront des salariés. Alors c'est un peu les 1000 vaches qui a capoté, même fait que c'était un peu l'idée, quoi. Et moi j'ai peur de ça, quoi. Alors là... Ça ne sera plus une agriculture paysanne, ça sera une agriculture de salariat. Pourquoi pas, hein, si on en a besoin pour manger. Mais moi, je ne souhaite pas que ça arrive vers ça, mais j'ai peur qu'on ait les deux. Et moi, je vois ça dans l'avenir. Enfin, je vais me tromper sur la partie où ça sera des financiers qui détiendront le foncier et qui mettront des salariés dessus. Je ne vais pas revenir au colcos et compagnie, hein, mais on sait ce que ça a donné quand l'agriculture a été salariée. Que salariée, ça n'a pas été non plus génial.
Et mais du coup, il va y avoir deux agricultures.
Il y est déjà, mais je pense qu'il va s'amplifier. Si on ne le corrige pas, si on laisse faire l'économie. Ouais. Moi, je pense qu'en économie, il faut laisser faire le marché, mais il faut que le politique il intervienne pour corriger ses excès. Donc, le politique, c'est nous, hein. Ouais. Nous, par nos choix, il faut qu'à un moment, si c'est le choix de la majorité des gens, de dire, eh ben, on met un... Des freins au marché pour empêcher qu'on ait ces deux divergences. Mais on commence à le voir. Ouais. Moi, j'ai des collègues, là, ils vivent avec des structures que tu aurais aimé il y a 50 ans, tu aurais pas 50 ans, mais 30 ans que j'ai commencé à travailler, tu n'aurais pas pensé que tu puisses vivre de tisane et de plantes médicinales ou d'escargots, je ne sais pas quoi. Et moi, j'en rencontre tous les jours, hein, dans tous les magasins de producteurs, j'en rencontre qui vivent bien, très bien, heureux, sur des structures qu'on n'aurait pas imaginé, moi qui ai fait mes études à la fin des années 80, on n'aurait pas imaginé que cette agriculture-là, elle serait viable. Donc déjà, en 30 ans, je l'ai vu, l'évolution. Et ça, je suis convaincu, ça va continuer. Et le retour à la nature, le mieux manger, le mieux vivre, tout ça, j'y crois. Mais il faut quand même qu'on sauve l'autre partie, parce que...
L'agro-industrie qui voilà. Va encore nourrir le monde.
Voilà, et ça, si on pouvait le garder à taille familiale, ce qu'on avait, hein, et qu'il soit transmissible... Parce que pour les agriculteurs, souvent, c'est important quand même la transmission du bien et puis du savoir-faire et puis de tout. C'était ce qui, moi, je vois mes oncles, qui, dont un vit encore, c'était sa passion, c'est ça, c'est d'avoir transmis à son fils, à son petit-fils, le but de la vie, quoi. Voilà, il a transmis la terre et puis, voilà, et puis la façon de travailler, tout ça, fait... C'est l'agriculture, c'est particulier par rapport à une usine, parce qu'il y a un vécu, tu y vis dedans, enfin, c'est à la fois ta famille, ton bien, ta fortune, ton passe-temps, ma maison qui m'a toujours dit, mais je ne prends pas de vacances, mais moi j'ai en vacances toute l'année, parce que c'était des métiers passion. Et ça, on le perd. Moi, de ma génération, j'ai des bons copains qui étaient pourtant des passionnés aujourd'hui, moi j'en ai un qui me l'a dit l'autre jour, ça m'a fait mal au cœur, il est à 3 ans de la retraite, il m'a dit, c'est à refaire, je ne serai pas agriculteur. Et c'est un des meilleurs que je connaisse. Hein. Il élève des vaches laitières et des vaches limousines, il est sélectionneur. Mais quand il m'a dit ça l'autre jour, ça m'a foutu les larmes aux yeux. Quoi. Ouais. Quand tu arrives en fin de carrière et que tu te dis ah ben si c'était à refaire, je ne le referais pas. Alors que c'est quelqu'un qui était passionné de ça, qui était très bon, techniquement et économiquement en plus. Ce n'est pas le dépit financier qui fait dire ça. Loin, ça me faut. Mais c'est voilà, arriver à un dégoût de paperasserie, lui c'était ça qui le rendait malade et tu dis quand tu vas tuer les rats dans les prés il faut faire une déclaration, c'est bon quoi, enfin, voilà, c'est tout et puis les marchés, hein, les cours qui fluctuent, les deux vaches ils ont morflé, en ce moment ça va plutôt bien, mais il te dit on peut plus vivre ça, l'engrais qui est du simple au double, l'énergie, enfin, c'est vrai que c'est des prises de tête.
Puis il faut tout gérer tout seul, quoi.
Et voilà, en plus voilà, t'es pas forcément aidé, parler des banquiers, moi depuis que je suis installé, 4e conseiller.
Eh bien,
donc,
4e
en 4 ans.
Ils ont fleuré un filon.
Mais je veux dire, autrefois, à Sainte-Afrique, c'était le même. Hein. Je ne vais pas donner son nom, mais moi, il a installé mon oncle, mon cousin, et Et il était à l'école avec mon père. Ça a été le même toute sa carrière. Ah, les gens du Sud-Africain, ils sauront de qui je parle. Il était d'une ferme à côté de Vabre. Mais aujourd'hui, je ne demande pas ça parce que la vie a évolué. Mais quand même, de changer de conseiller tous les 6 mois, c'est fatigant. Quoi.
Fin de la première partie de l'entrevue avec Fred, que nous retrouverons la semaine prochaine. Réécoutez les paroles rurales sur le site radiosaintafrique.com, rubrique émission hebdo. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.